Et oui, avec Léa Salamé, nous vous proposons ce matin un grand entretien spécial Prix du Livre Inter 2020 en studio. La lauréate cette année, Anne Poli pour Avant que j'oublie, Eva Bétan, l'organisatrice et sourcilleuse maîtresse de cérémonie du prix. En ligne, le président du jury cette année, l'écrivain Philippe Lançon, et Odile Benoît qui fut membre du jury et lectrice enthousiaste d'Anne Poli. Bonjour à tous. Félicitations, Anne Poli.
Bonjour à tous, merci beaucoup.
Et merci d'être là ce matin. Le prix du livre Inter n'est pas n'importe quel prix. C'est un prix de lecteurs passionnés. C'est un prix d'amoureux de la littérature. C'est un prix dont le jury est renouvelé tous les ans et qui n'a d'autre ambition que de porter un livre et de partager le plaisir pris à le lire. Avant que j'oublie est votre premier roman, Anne Poli. Ce prix vous fait-il plaisir? A-t-il pour vous une saveur particulière?
Alors oui, ce serait évidemment que ça me fait plaisir. C'est même inespéré. Et puis je suis emplie d'émotion et de bonheur de toute cette attention qui m'est portée. De l'attention qui est portée à ce texte, de la reconnaissance que ça représente. Le prix Inter, c'est un prix de lecteur. C'est, comme vous l'avez dit, des gens passionnés. Et je sais pas, enfin, je suis ravie. Et puis France Inter, c'est une saveur particulière, évidemment, puisque c'est la radio que nous écoutons en famille depuis toujours. Donc c'est tout à fait moi-même, je suis toujours attentive sur à qui a eu le prix Inter cette année ou telle année. Donc voilà, cette année,
comment
c'est moi.
Comment vous avez réagi quand on vous a appelé, qu'on vous a dit
Alors,
c'est vous.
On faisait une pétanque avec mon éditeur pour tuer le temps parce que ça devenait insupportable. Et donc voilà. Et on a fini par pleurer un petit peu.
C'est bien. C'est juste. Votre livre, c'est l'histoire d'un père et de sa fille. Un père imposant, unijambiste, alcoolique, auteur de violences conjugales, mais pas seulement. Mmh. Il y a chez lui de la tendresse, de la sensibilité. Il y a de la nuance que sa fille va essayer de voir et de raconter. On va en parler, bien sûr, dans un instant de votre livre. Mais d'abord, quelques mots avec Philippe Lançon. Vous étiez président du jury, donc racontez-nous comment ça s'est passé. Est-ce que les débats ont été âpres ou est-ce que le choix final s'est fait rapidement? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous avez appris de votre expérience de président?
Alain Poli, avant tout. Voilà, que je voudrais féliciter. Écoutez, alors les débats âpres, c'est pas le mot que j'emploierais. Ils ont été fermes. Et mais pas âpre dans la mesure où, franchement, il y avait vraiment beaucoup de bonne humeur dans la passion. Hein, et je mens pas du tout sur le voilà. Donc les débats, mais ils ont été fermes dans la mesure où tous les jurés qui étaient là. Et c'est ça qui m'a frappé. Je non seulement évidemment avait lu les livres, mais avait des arguments à faire porter. Mmh. Et on voit très très bien qu'il y a différents types de lecteurs, et nous en avions tous conscience. C'est-à-dire que un livre vit vraiment d'une manière très très particulière dans chaque lecteur, mmh. Et les lecteurs n'attendent pas non plus les mêmes choses des livres. Et ce qui était intéressant, c'était non seulement que chacun faisait part de ce qu'il attendait de tel ou tel d'un livre en général ou d'un roman ou d'un récit, mais d'autre part avait conscience de ce phénomène. Et donc on a vraiment beaucoup échangé là-dessus. Et puis évidemment, ben c'est long, vous savez, c'est comme en politique, on dit souvent au premier tour on choisit, au second on élimine. Donc là il y en a eu trois des tours, et progressivement les gens, et moi compris d'ailleurs, prennent conscience du fait que parfois un livre qu'il aime, il doit le sacrifier parce que à un moment donné, il faut arriver à un consensus. Mais je dirais là que le consensus qu'il y a eu sur le livre d'Anne Poli se dessinait quand même dès le départ, puisque ça a été tout de suite l'un des deux trois livres qui était vraiment choisi par le plus de, qui avait été aimé par le plus de lecteurs. Voilà.
Cette édition 2020, on le rappelle, Eva Bétan, s'est déroulée pendant l'épidémie de Covid, pendant le confinement. Il n'était donc pas possible de réunir le jury à la maison de la radio, comme ça a toujours été le cas. Adieu donc le conclave du dimanche. Les débats se sont déroulés en visioconférence. Eva, ça n'a pas nuit à la dynamique des échanges, dit Philippe Lançon. On a été plus poli par visioconférence ou au contraire on s'est lâché?
Très franchement, j'avais extrêmement peur avant. Je me disais ça va être congelé, ça va être une horreur, comment on va faire pour faire vivre ça? J'ai eu l'impression de gens, immédiatement ils étaient dedans, c'est-à-dire qu'on aurait dit qu'ils attendaient le coup de départ. Hop, ils étaient partis, c'est-à-dire qu'ils étaient prêts, ils avaient travaillé et tout. Il y a eu beaucoup de courtoisie, c'est-à-dire que quand quelqu'un parlait, les autres parlaient, ça n'enlevait rien au fond des débats. C'était pas mou, c'était pas tiède. Moi, ma hantise, ce serait qu'une chose, que ce soit mou. C'était pas mou du tout, je vous rassure. Comme d'habitude, on les a quasiment fouettés pour qu'ils aillent jusqu'au fond des débats et des idées. Et ils l'ont fait. C'était en même temps très gentil entre eux. Alors, en vidéoconférence, on avait les visages de plusieurs personnes en même temps et un espace de dialogue. En même temps qu'ils parlaient, il y en avait d'autres qui continuaient à discuter. Enfin, il fallait avoir les yeux partout. Ils se sont tutoyés tout de suite, ce qui arrive aussi quand on est en vrai. Mmh. En vrai, vous avez des gens qui ne se sont jamais vus. Et ils se tutoient naturellement, sans se dire, et si on se tutoyait, tout de suite, il y a le lien qui s'est créé. Et ça, c'est très important. Vraiment très important. Il y a eu le lien. Le sort de petit miracle qu'on n'ordonne pas, qu'on commande pas et qui se produit.
Il y a parfois, il se passe pas le miracle.
Franchement, il s'est toujours passé. Ah. Je sais pas comment. Non, mais je sais pas comment
c'est
ça se passe.
C'est grâce à vous,
hein.
Eva.
Voilà. Non, pas du tout. C'est grâce à la mécanique.
Anne Poli, la genèse de ce livre, c'est aussi la genèse de votre propre écriture. Avant que j'oublie, est votre premier roman. Vous avez été avant, on le dit rapidement, correctrice, secrétaire de rédaction dans un magazine féminin. Vous avez aussi rédigé des horoscopes, c'est vrai?
C'est ça.
Parce que vous étiez voyante ou parce que
non, c'est parce que vous savez bien que les horoscopes, c'est les situations de la vie de tous les jours. Donc il faut les imaginer pour pouvoir donner des réponses à des gens qui en cherchent. Donc voilà, je me suis... C'est un bon exercice d'écriture, en tout cas.
Avant que j'oublie votre premier roman, et vous dites, j'étais empêtrée, embarrassée, intimidée par la question de ce qu'il convient ou non d'écrire et de ce qui est autorisé à le faire. J'ai même consulté pour cela. C'est-à-dire que vous êtes allée voir un psy qui vous donne l'autorisation d'écrire?
Oui, c'est assez étrange comme démarche, peut-être. L'écriture, c'était quelque chose qui m'habitait depuis toujours, depuis l'enfance quasiment. Et puis, je crois que dans le milieu où j'étais, j'ai dû exprimer ça une ou deux fois et rapidement, j'ai compris qu'il fallait arrêter de dire ça, que j'allais plutôt dire que j'allais être, je sais pas, autre chose, institutrice. Enfin, j'en sais rien, autre chose, pas écrivain en tout cas. Et puis tout ça m'a suivi. Enfin, l'amour de la littérature, de la lettre, du texte, les réponses qu'on y trouve, tout ça m'a habité très longtemps. J'ai fait des études de lettres, tout ça, mais j'avais toujours cette. J'étais terrifiée à l'idée de prendre la parole, en fait, de prendre l'écriture, de prendre la langue pour moi et d'en faire quelque chose. Et donc, ça m'a fait souffrir au bout d'un moment de corriger les textes des autres, vous voyez, et de jamais oser prendre le sien. Tout ça crée une tension qui était trop importante.
Quel a été le détonateur pour que vous réussissiez à vous autoriser?
Donc la psychanalyse que je conseille à tous mes contemporains. Et également, à cette époque, a ouvert le master de création littéraire à Paris 8. Et donc, moi, j'avais besoin qu'on me valide dans cette démarche-là. Donc, je me suis inscrite et j'ai été donc reçue dans cette formation. Et c'est là que, au moment où j'ai rendu mes premiers devoirs, mes premières choses, on m'a dit, bah oui, visiblement, vous savez le faire. Donc, il faut y aller. Voilà.
Une question de psychanalyse et de littérature. Vous écrivez donc, à ce moment-là, sur le père.
Voilà, comme par hasard qui...
Par hasard, c'est ce qui vient sous la plume tout
voilà,
de suite.
Voilà, c'est ça. Mort du père, début de l'écriture, coïncidence, je ne crois pas.
Oui, exactement.
Voilà. Oui, et je dirais, et c'est par un père sur lequel il est évident d'écrire. Un des jurés a dit, c'est un sujet piégeux. Parce que c'est pas mon beau-papa, c'est un papa qui a été alcoolique à un moment de sa vie, qui a été violent. Il y a une page où vous dites, je le revois tournant autour de la table, voulant frapper ma mère. Enfin, c'est voilà. Et vous dites, il y a quelque chose derrière. Vous dites, un être humain n'est pas qu'une image qui écrase tout. Comme si vous cherchiez la nuance derrière l'image qui écrase tout. Est-ce que c'est parce que vous avez vécu ça que vous pouvez vous le permettre? Parce que ça semble impossible.
Anne Poli.
Je sais pas si... Oui, enfin, c'est parce que j'ai vécu des épisodes comme ça que je suis capable d'y discerner plusieurs choses. Ce qui m'intéressait dans cette histoire-là, c'est de savoir aussi... Enfin, pas d'excuser, mais de chercher à comprendre comment un individu, avec son milieu social, arrive à des extrémités parfois, comme celle-là. Ça m'intéressait de creuser ça, et puis de... Et puis, qu'est-ce qu'on sait de son parent quand on est un enfant? On n'en voit qu'un morceau, voilà. Mmh. Donc, c'était aussi mener l'enquête, savoir ce dont on hérite, savoir qui était cette personne un peu plus finement, trouver confirmation que ce n'était pas juste quelqu'un qui avait eu des problèmes d'adaptation à son époque, en quelque sorte. Et c'était aussi trouver, je crois... Je sais pas, il y a eu, là on parle beaucoup du genre, de la construction de la féminité, mais il y a aussi une construction, j'imagine qu'il y a aussi une construction de la virilité, et que il y a aussi plein d'hommes qui ont été pas du tout, qui collaient pas au modèle, et que ça a engendré des moments des schismes en fait dans leur personnalité, et puis je voulais parler du milieu d'origine parce que c'est important.
Un milieu modeste.
Un milieu modeste. Et puis surtout rendre hommage à ce nobody, en fait, qui était mon père. En fait, l'impulsion d'écriture est venue de ça aussi. C'est-à-dire que ça m'a contrarié que cet homme anonyme meure dans un hôpital anonyme, dans une banlieue anonyme. Ça m'a énervé. Je sais pas comment vous dire ça.
Alors que toutes les vies méritent d'être racontées.
Voilà.
Et qu'elles ont toutes leur part de grandeur.
Voilà. Et qu'il y a de la poésie dans ces vies-là. Et que les gens ont, et que souvent on oublie tout ça. Les gens ont eu pourtant des envies, des souhaits, des rêves. Il y a des choses qui les ont portées. Et puis que ça se finisse en 10 minutes devant un, dans un cimetière de province, c'est triste, vous voyez.
Parce que vous êtes ému, ce que vous écrivez est à la fois émouvant et c'est drôle, et c'est par moments cocasse, et c'est par moments vous avez une écriture trash. Comment vous, c'est quoi ce mélange de cocasserie et de sensibilité?
Alors, je dirais que c'est un peu une position dans la vie. D'ailleurs, voilà, ça aussi, ça fait partie cette manière de. C'est une façon d'être au monde. C'est aussi un héritage, ça, justement. C'est qu'est-ce qu'on hérite d'un parent? On hérite peut-être cette position, cette manière de voir du, de quoi rigoler dans la pire des tragédies. Donc voilà, je pense que ça c'est une force. Et après, en termes d'écriture, c'était aussi pour ménager mon lecteur, je crois. Ça, j'ai beaucoup pensé à ça en écrivant. Que bon, on parle du deuil, c'est quand même pas très marrant tout ça, donc ce serait bien si on pouvait un peu ricaner de temps en temps. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans les deuils dans la réalité, c'est-à-dire que il y a toujours un fou rire à un moment donné dans ces protocoles très raides, alors que tout dérape constamment. Voilà, donc il y a des occasions de rigoler. Je voulais.
C'est après qu'on rigole moins en général.
C'est ça.
Odile Benoît, vous êtes en ligne avec nous, membre du jury cette année. Vous êtes professeur de français langues étrangères et vous avez été un soutien, si j'ai bien compris, de la première minute, première seconde, premier instant du livre d'Anne Poli. Dites-nous pourquoi.
Oui, bonjour. Anne Poli, oui. Soutien inconditionnel dès le début. Pourquoi? Ben devant voilà ce père foutraque, Anne Poli va derrière la palissade. Elle s'arrête pas à la violence. Elle va le chercher. Elle sent cette âme originale et elle a envie de se désencombrer, de se délester du passé. Anne Poli, c'est de la poésie, de la cocasserie, de la drôlerie. Et elle a une voix, un souffle, une délicatesse et en même temps elle agrémente ça de formules punk, poétiques et cash. Et j'ai succombé.
Oh, c'est
merci
magnifique.
Beaucoup. Merci.
Anne Poli, vous voulez dialoguer avec Odile Benoît. Qu'est-ce que vous voulez lui dire là?
Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup de tous ces mots qui me touchent et qui me semblent vrais. Alors, j'aime bien le cash et le trash. C'est aussi. Alors, je voulais parler de ça au niveau du cash et du trash. Les gens trouvent que c'est cash et trash, mais en fait, c'est aussi beaucoup de langage parlé. C'est-à-dire la vie comme elle est. C'est-à-dire, par exemple, à un moment, je me dis check, voilà, ou des choses un peu comme ça, direct, parlé, qui font que ces langues-là aussi, cette oralité, c'est aussi des territoires dans les familles. C'est des choses qu'on C'est le langage qu'on parle dans les familles.
Qui vous a inspiré? Quels sont les auteurs qui vous ont inspiré? Parce que vous parlez de l'oralité. Est-ce que Céline, par exemple, a été importante?
Non, je dois dire que non. Non, vraiment, j'ai suivi quelque chose de très personnel. J'ai lu quelques petits trucs, mais pas grand-chose parce que je voyais bien que des récits de deuil, il y en avait beaucoup, beaucoup. Et si je me mettais à en lire, je n'aurais rien écrit du tout, en réalité. Donc non, les choses qui m'ont... Évidemment, c'est Annie Ernaux, hein, Didier Ribon, Annie Ernaux, ça c'est sûr.
C'est autre chose,
dans la même bien famille. Sûr. Ouais. Et oui, pour l'écriture, non, c'était vraiment un rythme intérieur, une scansion intérieure et une volonté pour que ça sonne aussi. J'ai lu beaucoup à haute voix pour que mon texte sonne.
Alors justement, Philippe Lançon, puisque vous êtes écrivain vous aussi, est-ce que vous avez entendu le texte qui sonnait de d'Anne Poli?
Oui, et tout à fait. C'est pour moi, c'est vraiment ce que moi j'appelle de la littérature, c'est-à-dire un... Comment dire? C'est un travail de dentelière. C'est-à-dire qu'elle part presque toujours des détails, de petits détails, un parti pris des choses aussi, de ce que, par exemple, les livres, les objets qu'avait son père chez elle. Et puis, à partir de là, elle tisse quelque chose dans lequel, effectivement, rentre du langage parlé, mais aussi... Des brèves réflexions, une attention vraiment très très précise aux détails. Et voilà, mais tout ça est quand même très très bien serti, et il y a un rythme. Et si j'avais une minute, j'aimerais lire un passage pour
Allez-y,
que les gens puissent entendre.
Allez-y.
Voilà, en espérant que j'y arriverai. Donc elle arrive, c'est l'enterrement du père et ils arrivent au cimetière. Ça nous a pris encore 20 bonnes minutes pour arriver. Le corbillard, pourtant parti avant nous, n'était pas encore là. Et tout le monde attendait dans l'allée de cailloux devant le mur de briques du petit cimetière. L'if géant commençait à devenir mauve et le froid a tombé, tandis que le ciel explosait dans des tons roses. J'ai mis mon écharpe et j'ai aperçu dans le virage, au loin, la berline noire qui arrivait vers nous à fond les ballons, et même un peu trop rapidement compte tenu des distances. Un instant, j'ai même pensé que, comme dans les films, il allait falloir qu'on se jette sur le côté pour ne pas se faire renverser. Et j'imaginais encore un titre façon Paris-Normandie. Gaillon, le corbillard finit sa course folle dans la grille du cimetière. Mais le conducteur a freiné en temps voulu, dans un crissement de pneus et de gravier. Et tout le monde s'est écarté du mur, l'air de rien. Les zombies ont ensuite ouvert la grille et débarqué la boîte au pas de course. Ma tante est descendue du break, il l'a. On s'est perdu dans un chemin de terre derrière les caisses à cause du GPS. Et je pourrais continuer, oui. Mais vous voyez, ça vous donne une image, une idée du ton et aussi de la précision, de l'humour. Et comme elle disait Anne-Poly tout à l'heure, de la manière dont les situations les plus burlesques entrent dans les moments les plus tragiques. Mmh. Et ça, c'est vraiment la vie, mais faut-il savoir le restituer.
Alors, vous disiez, Philippe Lançon, l'attention aux toutes petites choses. On est en ligne maintenant avec un chercheur en physique des particules, spécialiste, s'il vous plaît, des choses absolument microscopiques. François Arléo, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour
et vous,
à tous.
Vous étiez aussi membre du jury du prix du livre Inter cette année. Alors dites-nous, avant que j'oublie, Anne-Poly, vous êtes heureux?
Ah, je suis très très heureux, c'est vraiment un livre, je crois que tout est dit, on a tout entendu dans l'extrait, très bien lu par Philippe Lançon. C'est un texte qui est fin, qui est plein d'humour bravache, mais en même temps tout en nuance. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé le style très précis. Alors certes, il y a aussi beaucoup de style parlé, mais il y a des envolées très poétiques, très travaillées, l'air de rien. Et voilà, et c'est pas une hagiographie de son père, c'est pas un portrait à charge, c'est la vie et la mort d'un homme. Mmh. Et voilà, et je trouve que c'est une forme de tombeau littéraire qu'elle lui dresse, et ça j'ai trouvé que c'était de toute beauté, je la félicite.
Anne-Poly, vous voulez dire un mot, répondre à François Arléo?
Je trouve en effet, je vous remercie monsieur d'avoir défendu ce livre et de l'avoir aimé, de l'avoir lu. Oui, le tombeau de mots, alors ça c'est sûr que c'était aussi une motivation, c'est-à-dire que c'était peut-être pas très conscient au départ, mais c'est évidemment un mausolée de mots, c'est évidemment un tombeau de phrases, la vie d'un homme, mémoire d'un homme, voilà. Et vous parliez de burlesque et d'écriture. C'est un livre que j'ai beaucoup. J'ai fait attention au contraste dans ce livre, justement entre une écriture très tenue puis quelque chose de plus parlé, des moments tristes et puis des moments où on rigole. Et justement, le burlesque, c'est aussi. Je sais plus ce que je voulais dire. Ça n'a pas beaucoup d'importance.
C'est pas mal les burlesques. C'est pas très intelligent. Oui, c'est pas, mais on peut dire c'est bien. Le burlesque.
Ce que je veux dire, c'est que comment on fait pour raconter une histoire aussi plate, la vie d'un nobody nul. Part c'est plat, mais en fait peut-être que et si tout se transformait en une histoire folle, tout d'un coup le corbillard rentre dans la grille, tout d'un coup le zombie se casse la figure, tout d'un coup le carré s'endort,
écrivain. Mais voilà. C'est pas juste pour faire rire. Il y a par exemple tout ce qui est, et c'est très émouvant, la manière dont le personnage, vous, peut-être, s'invente des rites funéraires, parce qu'on en a tous besoin, avec les objets du quotidien du père, son chapeau, ses trucs. Ça vous le faites, c'est en même temps drôle et c'est en même temps bouleversant. Qu'est-ce que vous faites là? Vous faites vos rites funéraires à ce moment-là?
Ouais, alors il y a l'histoire du rite funéraire pour trouver soi-même le protocole qui conviendra. C'est-à-dire qu'on nous propose des protocoles qui sont très très raides, hein, pour le deuil, il faut choisir un texte, aller aux pompes funèbres, enfin c'est tout ça est très raide. Mmh. Et donc, il y a une façon de choisir sa propre façon de faire. Et l'histoire du chapeau, des objets, etc., c'est aussi une histoire de liste. C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste de la vie d'un homme? Les objets, parce que c'est une question à laquelle on se retrouve confronté. Tous les gens qui ont perdu quelqu'un savent ça. On se retrouve devant une armoire avec des trucs dedans, des piles, des bracelets de montre, des élastiques, des chaussettes. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Quand on a une maison où il y a des tableaux de maître, on sait ce qu'on fait avec tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les trombones et les élastiques? Ça, c'est une autre question.
On va aller au standard où nous attend Yvette. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Alors dites-nous, Yvette.
Eh bien, j'étais le professeur d'Anne Poli au collège à Carrière cette fois-ci.
Je
voudrais la féliciter. J'étais son professeur français-latin. Et voilà, j'en garde un souvenir merveilleux. Je suis très, très émue ce matin de l'entendre.
Prof de français-latin.
Oui. Oui.
Bonjour Madame Cerdan, j'ai reçu votre lettre.
Je suis contente.
Est-ce que vous voulez...
Nous avions fait... Le premier voyage que j'ai fait à Rome, c'était avec Anne Poli et c'était merveilleux. J'en garde un souvenir très, très... Très ému.
C'était un petit voyage scolaire. Et dans le cours de Madame Cerdan, en latin, on parlait latin. Elle nous posait des questions en latin et on répondait.
Ben justement, vous allez parler latin ce matin.
Non, on était
plus agile que... Enfin, moi, j'étais plus agile. Là, je serais incapable de faire ça.
Le latin. Je voudrais faire un enchaînement risqué entre le latin et Céline Dion.
Ah oui,
dans votre
c'est risqué,
livre.
En effet.
Oui, c'est risqué, mais c'est parlez-nous pertinent. Céline Dion.
Alors oui, pourquoi Céline Dion? Parce que la pop musique, parce que la musique populaire, parce que si je vous dis je veux chercher ton âme dans le froid, dans les flammes, vous savez tout de suite qui fait allusion. Ouais. Parce que ces chansons-là nous portent dans nos vies, parce que c'est un peu une petite revanche. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord que j'ai beaucoup souffert, moi, plus jeune, de la distinction entre haute culture et basse culture, alors qu'en réalité la pop culture était partout. Maintenant, vous voyez bien, il y a des sommes sur Game of Thrones, etc. Mais avant, c'était des choses dont on parlait pas. C'était ça concernait le banc, enfin oui. Les choses plus loin. Voilà. Donc il y avait ça. Le fait aussi que Céline Dion, c'est quand même une sorte d'icône gay. Donc vous voyez dans mon livre, il y a une espèce de tentative de queerisation du réel. Le curé, par exemple, parle comme Michel Serrault dans Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ. Céline Dion chante une chanson à la fin. Céline Dion, c'est aussi la fille qui a commencé avec une jupe trop courte et puis qui finit sous un torrent de lumière à Las Vegas. Vous voyez, il y a toute une progression comme ça qui m'intéressait. Et puis aussi, c'est aussi un pied de nez à mon propre travail, puisque moi, je mets 134 pages à expliquer quelque chose et Céline Dion, elle met donc 2 minutes 30 à le dire.
Chanson sur le père.
C'est une chanson sur le père qui s'appelle Parler à mon père. Et donc elle dit qu'elle voudrait faire tout un tas de trucs, marcher sur l'océan, sauver la terre. Et puis finalement, mais avant tout, je voudrais parler à mon père.
Eh bien, un grand merci Anne Poli.
Merci à vous.
Et félicitations merci. Encore pour le prix du livre Inter 2020 qui a été décerné par Avant que j'oublie, votre premier livre publié aux éditions Verdier.
Est-ce que je peux faire des tout petits remerciements qui dureraient 10 secondes?
Allez-y, 10 secondes.
Je voulais remercier mes éditrices Colette Olive, Michel Planel et mes éditeurs David et Lionel Ruffel. Je voudrais remercier ma famille queer qui m'a porté dans toute cette aventure. Le jury, bien sûr, et également les éditeurs indépendants qui se secouent pour trouver des solutions vraiment. Et les libraires
oui. Et les libraires et aller acheter le livre d'Anne Poli en librairie
énormément défendu et porté et voilà je voudrais leur dire merci
Anne Poli merci encore Eva Bétan merci. Philippe Lançon également merci monsieur le président du prix du livre Inter 2020 et merci aux jurés qui étaient en ligne avec nous.